Chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver. Je suis dans les studios du ROCAS de Radio Grand Ciel pour une nouvelle émission de l'écho de ma commune et je reçois aujourd'hui à nouveau le sénateur, Madame Chantal Dessaigne. Madame le sénateur, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous retrouver. Et effectivement, nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui de votre job, si je peux dire, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale.
Volontiers,
vous parce que... Vous êtes particulièrement investi dans ce
oui,
projet.
Oui, volontiers, parce que j'appartiens à la Commission des affaires sociales.
Qui vous êtes vice-présidente.
Vice-présidente, qui a pour objet, entre autres, de voter le budget de la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle le PLFSS, projet de loi pour la sécurité sociale. Et c'est en pleine actualité, parce qu'on vient de le voter la semaine dernière. Il y avait ce mardi, donc le 16, il y avait ce qu'on appelle la CMP, c'est-à-dire la commission mixte paritaire. Les deux projets de loi avaient été votés dans des termes différents à l'Assemblée et au Sénat.
C'est souvent le cas.
C'est souvent le cas. Et donc, on réunit une commission mixte paritaire qui, comme son nom l'indique, est composée à parité, à égale représentation de sénateurs et de députés, et on tâche de trouver un texte commun. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc c'est encore très frais dans mon esprit.
Et donc ça n'est pas terminé tout à fait.
Et c'est pas tout à fait. On a une deuxième lecture qui intervient ce jeudi, donc le 19 ou le 20. Dans le courant de l'après-midi. Et donc, on votera sûrement un texte qui sera différent de celui de l'Assemblée nationale.
C'est très difficile de s'entendre sur ce sujet.
Ah, c'est pas toujours difficile. Ça dépend des thèmes. Bon,
ça achoppe sur quelques-uns.
Oui, et puis, un texte de financement, c'est un texte important et ça marque des orientations politiques. Et donc, on a quand même quelques divergences, en particulier sur tout ce qui concerne la santé.
Et cette commission paritaire, vous dites moitié, j'imagine, de députés, moitié de sénateurs. Est-ce que ça joue aussi, cette parité, sur les différents partis ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La représentativité des assemblées est assurée au sein de la CMP.
D'où la difficulté de mettre tout le monde d'accord.
Pas toujours, mais oui.
Peut-être aussi que chacun a différents choix pour des sujets qui leur sont propres.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un éventail de possibilités, en fait. Hein. Sur un thème donné, on peut prendre différentes options. Et alors, pour tout un tas de raisons, qui peuvent être personnelles, philosophiques, qui peuvent être politiques aussi, on ne fait pas forcément tous les mêmes choix. Par exemple, et c'est un des volets de la loi de finances de la Sécurité sociale, la politique familiale ou la politique du handicap n'est pas forcément la même, suivant qu'on appartient à la droite de l'hémicycle, ou si on appartient, je sais pas, au Parti socialiste, par exemple. Moi, je reviens sur la politique familiale. La politique familiale est en berne. La natalité décroît. Il n'y a pas de soutien ni à la famille, ni à la natalité. Ça pose quand même un problème. Hein. Un pays qui ne se renouvelle pas, qui a un taux de natalité très bas, qui est le cas en France.
On n'assure pas. Ça allait bien.
Enfin, c'est limite. Hein. C'était à peine deux par
femme. 2,1.
Oui, même à peine deux. Là, c'est encore chuté un petit peu. un pays qui n'assure pas son renouvellement, c'est un pays qui meurt, c'est un pays qui n'est pas en mesure d'assurer, par exemple, les retraites aux aînés. C'est un pays
un très gros problème qui
meurt. Et ça, c'est vraiment des choix politiques. Souvenez-vous que c'est François Hollande et son gouvernement de l'époque qui avaient limité ou conditionner plutôt le versement des allocations familiales aux revenus des parents. Ça, c'est pas une mesure nataliste, loin de là. Et un ménage avec des revenus moyens, il a besoin d'avoir une aide au travers des allocations familiales, mais aussi au travers des équipements qu'on peut mettre à sa disposition, comme des crèches, des haltes garderies, la scolarisation des 3 ans. Alors, c'est obligatoire désormais, hein. Mais ça, en fait, c'est cette disposition qui avait été prise par le gouvernement de François Hollande. C'est vraiment une disposition politique qui considérait que les ménages, un couple qui avait, je me souviens plus précisément du montant, mais qui travaillant à deux avait 5000 euros par mois, mais c'est de cet ordre-là, ils étaient considérés comme riches. Vous savez que François Hollande faisait la chasse aux riches et que à ce titre, ils ne pouvaient plus prétendre à des allocations familiales ou à des aides à la famille et à l'enfant, pour la garde d'enfants, par exemple, etc., etc.
On abroge ça maintenant.
Alors, ce n'est pas abrogé du tout. Le gouvernement actuel n'a pas pris de disposition pour annuler ces mesures qui avaient été prises sous le quinquennat de François Hollande. Ce que nous, groupe politique, et moi personnellement, je soutiens, il faut revaloriser. C'est compliqué pour les jeunes couples où les deux membres travaillent de s'organiser, de faire garder leurs enfants. Ils ont besoin d'aide financière aussi. Avoir quelqu'un chez soi, ça coûte très cher, même si ça ouvre droit à des crédits d'impôt. Trouver une place de crèche, c'est un vrai parcours du combattant. Voilà, on a besoin d'un soutien et on ne peut pas. Alors, c'est bien d'aider les plus fragiles et les plus démunis, mais on ne peut pas se limiter à n'aider que ceux-là, parce que les autres, ce qu'on appelle les classes moyennes, contribuent aussi au travers de leur impôt, par exemple,
à la richesse nationale
et aux équipements qui sont proposés pour tous. Donc qu'ils puissent à un moment en bénéficier aussi pour leur faciliter les choses et leur faciliter la vie, ça me semble évident et normal.
Pour ce qui est des handicapés, là, le parcours sera certainement très long. J'ai entendu il y a quelques jours une émission qui était très intéressante d'ailleurs, avec Dominique Farrugia,
oui,
qui est donc célèbre évidemment comme ancien nul. Enfin, il dit qu'il l'est toujours. Dominique Farrugia souffre d'une sclérose en plaques et se trouve donc depuis 4 ans dans un fauteuil roulant. Et il explique qu'il a là vraiment pas apprécié du tout le peu de choses que l'on faisait un peu partout pour les handicapés, ne serait-ce que pour aller simplement faire une course ou se rendre dans un magasin. Normalement, tout doit être effectivement adapté au fauteuil roulant. Mais entre autres, mais il dit que ce n'est pas du tout le cas.
C'est loin d'être le cas, il a raison, dans son constat, il a raison. Sauf que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et que ça se fait au fur et à mesure du temps. Alors quand on est concerné, qu'on est soi-même handicapé, qu'on a un proche handicapé ou un proche vieillissant, on trouve que le temps est très long. Moi, ma maman me disait très récemment que le trottoir était impraticable devant chez elle. Ce qui est faux, mais bon, elle se déplace avec une canne. Quand elle avait 60 ans, 70 ans, elle trouvait que les trottoirs étaient très bien. Ils n'étaient pas
forcément. Allègrement.
Voilà. Et maintenant, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, bon, ça, c'est une anecdote. Mais les aménagements se font au fur et à mesure de la rénovation urbaine et des aménagements qui sont apportés dans une commune. Et il y a des endroits où c'est très difficile. Moi, je pourrais citer localement, en Eure-et-Loire, des communes où si on veut rendre les trottoirs praticables aux fauteuils, eh bien, il faut abattre les propriétés riveraines, parce qu'il y a 30 cm de trottoir avec un mât électrique au milieu du trottoir. Voilà, alors on a la route, on a un bout de trottoir, et puis ensuite les murs des clôtures ou les maisons riveraines. Bon, donc ça ne peut s'imaginer et se réaliser que dans un projet d'ensemble. Ça veut dire que dans ces communes, par exemple, on va essayer de mettre un sens unique de circulation de façon à pouvoir élargir des trottoirs et on va en profiter pour faire de l'enfouissement électrique, par exemple. Hein. Donc ça se fait pas d'un coup. Par contre, il y a le gouvernement a raté le coche en ce qui concerne, alors ça le concerne peut-être moins, Dominique Farrugia, mais l'AAH, qui est l'allocation aux adultes handicapés et qui est soumise à conditions de ressources. Ça veut dire que quand vous vivez en couple, on va considérer et prendre en compte les revenus de votre conjoint. Mais le handicap reste le handicap, quelle que soit la situation familiale et matrimoniale. C'est une forme de reconnaissance du handicap et d'aide à surmonter le handicap parce qu'on a besoin d'équipements spécifiques, d'aménagements particuliers, par exemple au sein de son logement. Et conditionner le versement de cette allocation aux revenus,
c'est difficile.
C'est quand même assez difficile.
Mais il y a aussi toute une préparation, par exemple, pour pouvoir avoir des allocations, des aides financières. Je me souviens d'avoir entendu dire que pour prétendre pouvoir déposer un dossier, simplement, il fallait attendre le passage au domicile d'une assistance sociale, et cette dame ne pouvait pas se déranger avant 2 mois. 3 mois quelquefois. Ils sont complètement submergés de demandes et ça doit être très difficile de pouvoir ne serait-ce qu'examiner tous les cas.
Absolument. C'est une compétence du département, c'est les MDA. Alors effectivement, dans le cadre d'une demande, il y a un dossier qui est constitué, il y a une assistante sociale qui passe à domicile, il peut y avoir aussi un ergothérapeute qui va passer, un spécialiste de l'aménagement de l'appartement.
Et tout ça se juxtapose aux déserts médicaux.
Aux déserts médicaux. Alors les déserts médicaux, ce n'est pas uniquement que les départements ruraux, loin de là. La région centre à laquelle nous appartenons
est particulièrement touchée.
Est particulièrement touchée. C'est la dernière région de France. Il y a 13 régions. Et la région Centre-Val-de-Loire est la dernière. Alors, hormis l'Indre-et-Loire, parce qu'il y a la fac de médecine et les jeunes étudiants et les médecins qui sortent de Tours ont plutôt tendance à rester dans ce département parce qu'il y a l'attractivité de l'université, de la fac, de l'hôpital. Et puis, le Val-de-Loire, c'est riant. Et c'est là, très souvent, qu'ils ont établi leur vie. Qu'ils ont leurs amis, etc. Donc, ils restent sur ce territoire.
Mais il y a quand même un problème. J'ai un ami qui est médecin à côté de Dreux et qui a la chance d'être maître de stage à l'université de Tours. Donc, en fait, il récupère, si je puis dire, quelques stagiaires. Mais ils ne veulent pas rester à Dreux. Ils ne veulent pas.
Alors, c'est souvent un problème parce qu'en fait, la mentalité des jeunes médecins a changé. On peut comprendre, hein, ils n'ont plus du tout envie d'exercer les médecins de campagne avec des horaires qui n'en finissent pas. Ils aspirent à autre chose. La profession s'est beaucoup féminisée aussi, ce qui est bien, hein, moi j'en suis très fière. Mais si on veut concilier sa vie de famille, sa vie de mère de famille et son activité professionnelle, c'est des fois un petit peu compliqué, donc ça suppose des aménagements et des aménagements en temps de travail. Ça veut dire que peut-être maintenant il faut 2 médecins, mais pas que des femmes, hein, 2 médecins pour remplacer un médecin des années 70. Et donc on n'en forme pas suffisamment. On n'en forme pas suffisamment.
Il n'y a plus de numerus clausus quand même.
Alors, effectivement, il n'y a plus de numerus clausus.
Mais c'est très récent.
Mais c'est très récent, ça a à peine une année. C'est particulièrement récent. Ça devait être, s'il y a un an, ça devait être le précédent PLFSS. Projet de loi de finances de la sécurité sociale, pardon pour les acronymes.
Merci.
C'est tout à fait récent, ça a du mal à se mettre en place, parce que vouloir en former plus, c'est bien, mais encore faut-il avoir les capacités de les accueillir en fac et dans les hôpitaux. Et c'est là que le bât blesse. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez précédemment, d'un médecin qui est maître de stage et qui arrive à capter des jeunes étudiants pour un stage de 6 mois, souvent en cabinet de ville. Alors, quand je dis cabinet de ville, en fait, je veux dire exercice libéral. Hein, ça peut être aussi dans une commune rurale. Moi, j'avais fait adopter l'an passé 2 dispositifs qui vont dans ce sens. Le premier, c'était d'inscrire dans le parcours, dans le cursus des étudiants en médecine, la dernière année de leur formation, 6 mois obligatoirement passés dans un cabinet médical.
Alors, c'est bien ça.
Pratique libérale, soit cabinet médical individuel, soit dans une maison de santé, mais être dans le quotidien d'un médecin généraliste. Ça a été voté à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale d'ailleurs.
Donc quand on trouve une solution, elle est votée.
Oui, elle peut être votée, sauf que pour que la loi s'applique, il faut que le décret soit pris. Et pour l'instant, le décret n'est toujours pas pris. Alors c'est dommage parce qu'on se prive de 3 500 médecins par an sur une période de 6 mois. Et c'est des gens alors qui ne sont pas forcément encore thésés, mais qui ont terminé leur parcours, qui sont... D'abord, ils travaillent en binôme avec un confrère, un médecin à leur côté, et qui sont tout à fait capables d'établir un diagnostic, de faire les prescriptions, etc. Enfin, ce sont des médecins, même s'ils ne sont pas docteurs. Et puis, j'avais proposé un deuxième dispositif pour être médecin maître de stage. Il faut valider une formation de quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, quelques jours. Et nous appartenons à la région centre et les médecins relèvent de la fac de Tours, médecine à Tours. Et donc, on envoyait, et on envoie toujours, des médecins qui sont par exemple à l'est du département, je pense Auneau, Maintenon, etc. Ces médecins, s'ils souhaitaient être médecins référents, maîtres de stage, devaient aller à Tours pour suivre leur formation. On manque de temps médical. Les médecins n'ont pas suffisamment de temps.
C'est plus facile sur Paris, non ?
Exactement. Et on a à Saint-Quentin une antenne de médecine. Et
donc tout à côté de Dreux.
Exactement. Alors, ça ne s'est pas passé dans la loi, bien sûr. Mais j'ai demandé et j'ai obtenu satisfaction en écrivant au ministère que soit considérée la proximité géographique et que les médecins qui sont à Dreux ou à l'est du département puissent valider leur titre de maître de stage en se rendant en formation à Saint-Quentin. C'est quand même beaucoup plus facile que de s'expédier à Tours.
En ce qui concerne le projet de loi de finances de la sécurité sociale,
alors, il vient d'être adopté par le Sénat la semaine dernière. Nous n'avons pas trouvé d'accord avec les députés, donc nous allons avoir une deuxième lecture. Mais je veux vous dire ce que contient un petit peu ce PLFSS. On a parlé tout à l'heure de la branche famille, mais ce n'est pas que ça. C'est en fait la branche, essentiellement d'ailleurs, c'est ce qui coûte le plus cher à la sécurité sociale, la branche santé. Le déficit constaté de l'année en cours est de 37 milliards.
Covid ?
Pas uniquement. Le Covid, ça représente environ une dizaine de milliards. Alors, c'est énorme. Hein.
Mais il en reste 27 quand même.
Oui, oui, oui. Alors, les 10 milliards directement liés au Covid, c'est en fait la vaccination et les tests qui étaient gratuits. Les 27 milliards, c'est...
Ils vont peut-être, je reviens sur les tests, ils vont peut-être être à nouveau gratuits.
Alors, je ne sais pas, en tout cas, c'est une revendication, entre autres, de Jean-Luc Mélenchon, qui dit, à l'approche des fêtes de fin d'année, il faudrait pouvoir sécuriser les retrouvailles en famille, les déplacements, et permettre les tests gratuits. Voilà. Mais globalement, 10 milliards, c'est le coût de la vaccination et des tests. Alors... bien sûr, coût de la vaccination, mais aussi les communes, par exemple, qui ont mis à disposition des centres de vaccination, des personnels à disposition pour tous les volets administratifs, etc. Les médecins, les infirmiers qui pratiquent les injections. Ça comprend aussi, alors pour les collectivités, une indemnisation de la mise à disposition de leur personnel et locaux, et pour les médecins et soignants et infirmiers qui contribuent à la vaccination, le versement d'une indemnité, c'est pas un salaire, mais d'une indemnité. Donc ça comprend tout ça, c'est pas que la fourniture du vaccin ou que le test Covid.
En ce qui concerne la fourniture du vaccin, qu'en est-il des vaccins qu'on envoie à l'étranger, dans des pays qui en ont besoin, qui ne peuvent pas se les payer? Est-ce que ça rentre aussi dans ce budget?
Je ne sais pas si c'est rattaché à ce budget. Par contre, ça existe toujours, c'est COVAX.
Donc, qui paie COVAX, quoi?
C'est la France. Enfin, c'est l'Europe. C'est l'Europe et la France contribue. Et c'est particulièrement important parce qu'on ne vit pas dans une bulle. Et même si la population française était vaccinée à 100%, et que sur le territoire, on avait complètement éradiqué le virus, ce qui est quand même fort improbable, on ne vit plus comme on vivait au XVIIIe siècle.
Reviendrait comme un boomerang.
Exactement, on se déplace beaucoup. Donc il y a un intérêt aussi pour nous, Français et Européens, à ce que tout le monde puisse être vacciné et puisse avoir accès au vaccin.
Mais donc ça, nous le payons indépendamment de la sécurité sociale,
c'est sûrement dans le but.
Que nous donnons à l'Europe et tous les pays naturellement.
Et tous les pays. Alors le budget de la sécurité sociale, donc je disais un déficit de 37 ou 39 millions constaté,
dont 10 millions pour la vaccination.
Voilà. Et on a voté. Alors moi je me suis abstenue sur ce vote, mais majoritairement on a voté un budget pour la sécurité sociale où on inscrit un déficit de 22 milliards d'euros. Et pour l'année 2025, on est sur une trajectoire de déficit de 15 milliards d'euros. Donc c'est énorme. Enfin, il y a un moment,
Et on peut y faire face ou pas?
On y fait face comment? On y fait face avec la dette.
La dette, l'impôt?
Oui, parce que l'argent magique, ça n'existe pas. Sinon, ça se saurait.
Et est-ce que dedans, il rentre aussi ce que nous reverse l'Europe?
Dans le budget de la sécurité sociale, il n'y a pas de reversement de l'Europe.
Même pour les vaccinations et rien du tout?
Non.
J'avais compris que peut-être certain nombre de vaccins, bien sûr, beaucoup j'espérais, étaient fournis grâce à l'Europe.
Alors, je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. En fait, les vaccins ont une autorisation de mise sur le marché par l'Europe.
L'AMM, oui.
Voilà. Ensuite, la Haute Autorité de Santé pour la France délivre aussi une autorisation de mise sur le marché. Et ce qu'il y a eu au niveau européen, c'est une commande groupée.
Mais que nous payons quand même.
Mais bien sûr. Alors, après, donc, le déficit de la sécurité sociale, on parlait à l'instant des déserts médicaux. Il y a deux mesures qui ont été adoptées cette année. Une première qui a été portée par la rapporteure Corinne Imbert, mais que j'ai largement soutenue, c'est que le conventionnement d'un médecin qu'il souhaite s'installer soit conditionné à la pratique d'au moins 6 mois dans un cabinet médical dans des territoires sous-dotés.
Et il y en a quelques-uns.
C'est pratiquement
le territoire national. Il ne faut pas qu'il aille s'installer tout de suite à Nice, quoi.
Voilà, Voilà, hein, mais passage obligé, faire un stage en Eure-et-Loir, mais ça peut être aussi en zone périurbaine, ça peut être en région parisienne, c'est pas forcément le fin fond de la Creuse, qui est un magnifique département, mais voilà.
On demande un médecin sur l'île d'Ars.
Par exemple, hein, voilà. Donc, première mesure, et puis la deuxième mesure, c'est une mesure que je portais, qui a été adoptée par le Sénat, on verra ce qu'il en sortira à l'issue de la deuxième lecture.
Il y a beaucoup de va-et-vient comme ça avec l'Assemblée.
Non, là il n'y en a que deux, parce qu'on est dans une procédure accélérée, sinon ça peut durer très très longtemps. C'est de créer des zones franches médicales sur le même modèle que les zones franches commerciales. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas une fin en soi, ça ne résout pas tout et ça ne mettra pas des médecins partout. Mais si on a des zones franches médicales, ça veut dire que les médecins sont exonérés d'un certain nombre de taxes et impôts.
C'est important.
C'est important. Et si ça peut contribuer à l'établissement de médecins dans ces secteurs, on a gagné. Mais c'est un outil d'une boîte à outils. C'est pas le passage obligé. Enfin, voilà. Mais c'est essayer de trouver des dispositifs pour inciter les jeunes médecins à venir s'installer dans nos territoires, en faisant le pari que si on les aide, ils vont venir plus facilement et que peut-être ils vont trouver goût à leur pratique dans ce territoire et qu'ils vont s'y implanter définitivement.
Bien sûr, mais la crise est tellement aiguë qu'il faut faire feu de tout bois, c'est sûr.
Exactement.
Alors, à un moment donné, j'entendais parler beaucoup de maisons médicales, il faut créer les maisons médicales et tout, mais j'avais dit que, enfin, à mon sens, il fallait aussi trouver des médecins pour mettre dedans. C'est le problème.
S'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de maison médicale. Et la condition première pour pouvoir ouvrir une maison médicale, c'est qu'il y ait au moins un médecin. C'est pas que des professionnels de santé, j'en sais rien moi, podologues, diététiciens, infirmiers, etc., qui peuvent seuls monter une maison médicale. Pour que ce soit une maison médicale, il faut impérativement qu'il y ait au moins un médecin.
Ça va vraiment de soi.
Et on connaît en France des zones où les élus, qui sont toujours pleins d'initiatives et de bonne volonté, élus locaux, ont monté des cabinets médicaux, des maisons médicales, mais qui sont désertes. Parce que le projet n'était pas porté par des médecins et qu'attirer des médecins dans ces territoires et dans ces maisons de santé, quand ce n'est pas un projet qui a été mené par les professionnels de santé, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'une question d'accueil et de locaux mis à disposition. Et désormais, l'ARS ne donne pas suite à des dossiers qui ne... Alors, il n'y en a plus, hein, parce que ça se sait maintenant, mais à des dossiers qui ne seraient pas portés par des médecins.
Quelques maires avaient été aussi tentés de prendre à leur compte, enfin, payés par la commune, certains médecins qu'ils pouvaient attirer de cette façon-là, et je ne sais pas si ça se pratique toujours encore. Enfin, c'est encore un... comme vous disiez, un petit truc peut-être en plus pour
oui,
essayer
c'est
de
le, pallier... c'est le salariat des médecins. Alors... éventuellement, quelques grandes villes ou des communautés d'agglomération ont pu salarier des médecins. Ce sont surtout des départements qui salarient des médecins pour les déployer ensuite sur le territoire.
Quand vraiment ça va plus, quoi.
Bon, mais ça pose toujours la question du recrutement des médecins et de la formation des médecins. Alors, bien sûr, on a des médecins qui viennent de Roumanie, qui ne sont pas forcément mal formés, d'ailleurs, c'est pas le problème.
Ils doivent passer une équivalence avant d'exercer en France ?
Oui. Alors, c'est pas, ça s'appelle pas une équivalence, mais ils doivent effectivement valider... je ne sais pas si c'est
leur diplôme.
Oui, leur diplôme. Enfin, et puis la maîtrise de la langue. C'est quand même plus facile, quand on doit s'adresser à un médecin,
bien sûr.
De pouvoir maîtriser la langue.
Je crois que cette fois, nous avons fait le tour de la sécurité sociale. Madame le sénateur, j'ai été ravie de vous recevoir. Ça m'a fait bien plaisir. Et quand tout sera résolu avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et que tout sera terminé, vous viendrez nous en reparler.
Avec plaisir.
Pour nous dire les avancées, savoir si vos espoirs ont été comblés. pourquoi pas. Et merci en tout cas d'être venu dans nos studios, je suis absolument ravie. Pierre Écart a enregistré cette émission et la réalisera pour vous, chers auditeurs. Et moi, je vous retrouverai bientôt sur les ondes de votre radio favorite, Radio Grand Ciel. Au revoir.
Au revoir, merci Marie-France.